Bonjour à tous, bienvenue à vous dans le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission jusqu'à 14h, le retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis cette question, quel avenir pour l'Europe? Pour en débattre, notre invité sera le commissaire européen Pierre Moscovici. Il publie dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Tout un programme et peut-être une définition de la situation de l'Union aujourd'hui. Pierre Moscovici sera notre invité dans une quinzaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Et bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Premier sujet à l'ordre du jour. Il est pour vous, Natacha. C'est une dédicace.
Il y a un mouton.
Un mouton à la maison ? Ce sera pas possible. Hein.
Et ce petit garçon qui veut un mouton dans le journal d'Olivier, vous l'entendiez, la vache haute, cette splendide Aubrac qui était la star du Salon de l'Agriculture était à l'honneur. Le Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes ce soir. Trois Césars au film Petit Paysan, c'était au cours de la cérémonie de cette édition. Un rapprochement de la société française avec son agriculture, voilà ce que déclarait le ministre Stéphane Travers. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Il le déclarait suite au César remis au Petit Paysan, ce film formidable, Natacha.
Je crains hélas que ce ne soit un rapprochement par nostalgie pour un monde qui est en train de disparaître. Et c'est cela qui me gêne profondément. C'est très touchant de voir
nostalgie.
Un petit enfant au Salon de l'Agriculture et c'est absolument merveilleux. Ce qui est inquiétant, c'est de savoir...
Vous auriez que l'un de vos enfants apporte un mouton à la maison ?
Non, j'adorerais. Mais hélas, ils y vont comme ils vont au zoo, c'est-à-dire voir des animaux exotiques. Voir ce qu'ils ne connaissent pas. C'est un monde qui leur est totalement étranger et c'est bien cela qui devient inquiétant parce que c'est une civilisation aussi, c'est quelque chose qui a construit l'ensemble de la France, qui a fait sa, à la fois son histoire, sa géographie, ses paysages et tout cela est en train de se... pas seulement de se transformer, mais véritablement d'être détruit dans ce qui faisait sa qualité, son intérêt. Et d'ailleurs, le Salon de l'Agriculture en est une preuve, puisque si vous regardez les plus gros stands, c'est quoi ? C'est la grande distribution, l'agro-industrie, tout ce qui a détruit l'agriculture française.
McDo,
et qui aujourd'hui,
il y avait un stand.
Voilà, c'est quand même merveilleux. Lidl, Leader Price, on pourrait tous les citer, etc. C'est-à-dire des gens qui sont en train de faire crever les paysans. Alors, je sais bien qu'il y a certains qui disent « mais nous achetons français, nous achetons de qualité, etc. » Mais c'est une vision du monde et une conception qui met en danger ce qui fait la spécificité de l'agriculture française, à savoir le fait que c'est une agriculture paysanne, une agriculture qui n'est pas industrialisée. Or, petit à petit, elle est en train d'être détruite parce qu'on lui demande de s'aligner sur des critères qui sont des critères de transformation de l'agriculture en industrie, c'est-à-dire qu'on nous demande de traiter une vache ou un mouton comme un boulon, comme, et donc de faire des usines à vaches comme on fait des usines à boulons. Et ça, ça c'est la négation de ce qui fait l'essence du travail, du métier de paysan, à savoir la capacité à comprendre le lieu où il est, c'est-à-dire la spécificité de cette croûte de terre qu'il a en dessous de lui, du sol qui est en dessous, du climat qu'il a, de la lumière. Tout ça nécessite justement de ne pas uniformiser. Et c'est aussi une forme, c'est une défense de biodiversité, c'est une défense de cultures humaines, et c'est tout ça l'enjeu que nous sommes en train de vivre. Allons-nous préserver cela ? Pas seulement la France, l'ensemble de l'humanité.
Raphaël Glucksmann.
C'est tout le problème du simple jeu du libre marché, c'est-à-dire que ça tend nécessairement à l'uniformisation. Et là, le grand, c'est très bien hein, de célébrer le monde paysan, le monde rural, mais le grand problème, ça reste celui de la distribution, qui fonctionne en France en particulier comme une mafia. Et donc, tant qu'on ne s'attaque pas réellement au problème de la distribution et de cette tendance à imposer des prix qui ne permettent pas aux paysans de vivre, eh bien, on n'y arrivera pas. Ce sera toujours très bien de faire des films, mais effectivement, ce sera des films musées. Et c'est ça qu'il faut éviter. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, on est tous en train de se dire qu'il faut prendre au sérieux les critères écologiques, qu'il faut réinscrire l'être humain dans quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire l'environnement dans lequel il grandit et dont il hérite. Et là, on a un système économique qui conduit nécessairement à cette destruction et à cette industrialisation et à cette suppression en fait de notre rapport à l'environnement.
Vous avez tout à fait raison et il y a deux problèmes en fait. Il y a la question d'abord du libre-échange, tout simplement, qui n'est pas compatible avec la préservation d'une agriculture paysanne et donc pas compatible avec la préservation de l'environnement.
En fait,
Parce que le libre-échange implique qu'on peut aller acheter les produits ailleurs, moins cher, donc des produits fabriqués dans des conditions dégueulasses.
En fait,
et deuxième chose, juste je termine, deuxième chose, c'est le refus politique de lutter contre ce pouvoir de la grande distribution d'aller se fournir ailleurs qui pose problème. Parce que la grande distribution aujourd'hui en France, elle est pléthorique. C'est-à-dire qu'il y a trop de magasins, d'hypermarchés, ils ne sont plus rentables. Donc, pour attirer le chaland, ils doivent baisser les prix, ils doivent continuer cette guerre des prix. Et donc, ils font pression sur les producteurs. La seule façon de lutter contre ça, c'était un moratoire sur les ouvertures et les extensions de grandes surfaces. Il y en a 931 000 m² qui vont être encore construits en 2018 alors qu'on en a déjà trop. Il suffisait que le gouvernement le décide. Il a refusé parce que Bercy a expliqué que c'était contre la liberté d'entreprendre et de commercer.
Mais c'est tout le problème de cette aporie du libre-échange. C'est-à-dire que le libre-échange poussé à bout, finalement, a abouti à une négation du libre-échange. Parce que c'est plus du libre-échange. En fait, c'est des situations de quasi-monopole puisqu'ils s'allient et tout en sont en concurrence. Et donc, qu'ils imposent leur propre prix et leurs propres critères sur l'échange.
Ça n'est pas du libéralisme.
Et donc, ce n'est plus pur. Du libéralisme. Non. C'est-à-dire que quand le libéralisme fonctionne, quand il est régulé. Or, quand la puissance publique s'abstient de réguler le libéralisme poussé à bout aboutit à quelque chose qui est l'antithèse du libéralisme. On le voit sur la question rurale, mais sur d'autres questions aussi, c'est-à-dire des situations monopolistiques et des situations de diktat.
Il est 13h24 sur France Inter.
France Inter. Natacha Polony. Raphaël Glucksmann. Le duel.
Je vois des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs. C'est extraordinaire et bien sûr inhabituel de voir tous ces garçons casqués de casques de moto avec des mouchoirs sur le nez qui montent une espèce de piqué en faisant la chaîne devant la flamme.
Et nous sommes en mars mai 68 exactement, beau lapsus, puisque les commémorations de mai 68 démarrent, elles se préparent, et mai 68 qui pour certains historiens a commencé en mars, le 22 mars précisément, avec les étudiants de Nanterre qui réclamaient la possibilité pour les garçons d'aller dans les chambres des filles de la résidence universitaire. Vous allez croire que je suis vraiment obsédé par la question. Ils disaient aussi leur opposition à la guerre du Vietnam, et le débat commence sur l'héritage des événements de 68 dans le Figaro Magazine, ce week-end notamment, avec un numéro consacré au vrai bilan de 68 et Raphaël Glucksmann, un papier d'Éric Zemmour sur les dégâts et les conséquences de ces événements qui vous a alerté, on peut dire même indigné.
Non, c'est le condensé de 50 ans de propagande anti-68 qui fait de 68 la mère de toutes les catastrophes, de la désintégration de la famille, de la désintégration de l'école, de la désintégration de la nation. Et c'est tellement porté, souvenez-vous du candidat Nicolas Sarkozy qui promettait de liquider l'héritage de 68, qui faisait même cette chose absolument admirable, qui faisait applaudir par l'ensemble du CAC 40 ses phrases sur le thème « 68, c'est l'argent roi ». Alors il y avait tous ces gens en Rolex qui se levaient et qui applaudissaient en disant « Oui, c'est de la faute de 68, l'argent roi », comme si c'était pas de la faute de Reagan et Thatcher, mais c'était de la faute de Danny Cohn-Bendit et des étudiants et des ouvriers de 68. Donc il y a eu cette propagande, ce matraquage, et moi-même, j'avais intégré l'idée que 68 était devenu impopulaire, que finalement, eh bien, c'est vrai, les gens n'aimaient pas 68, que c'était un totem bobo, que j'allais me retrouver tout seul en fait à défendre ces principes portés par 68.
Vous qui n'étiez pas né
et
à l'époque.
Et moi qui n'étais pas né à l'époque, mais qui n'avais aucune haine contre ces barricades et contre la libération et des mœurs et des progrès sociaux qui ont été permis par 68. Et alors, avec le nouveau magazine littéraire, on a commandé une enquête d'opinion, un sondage, pour savoir vraiment ce que les gens en pensaient de 68. Eh bien, quelle ne fut pas notre surprise. Et je vous invite vraiment tous à le lire.
Oui, beau moment de trop promo.
Ouais, bien sûr, parce que c'est...
Vous
c'est,
n'avez vraiment c'est, honte de rien.
Non, non, mais surtout, j'ai pas honte de 68.
Bon, sondage.
Et ben voilà, le truc fou, c'est que 79% des Français défendent l'héritage de 68, et les jeunes plus que les vieux, et surtout les catégories populaires bien plus que les catégories bourgeoises. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, là, dans l'histoire de France, qu'il faut réhabiliter, qu'il faut revisiter, qui est le moment où ce qui allait de soi, le fait que nous vivions dans une société injuste, eh bien, n'allait plus de soi et était questionné. Et moi, je pense que les gens sont extrêmement attachés à cela. Et c'est pas de l'autopromo, c'est vraiment la reprise en main d'un héritage historique qui a été calomnié et une défaite culturelle, parce que moi-même j'avais admis l'idée que c'était
pour
impopulaire.
Certains, et notamment de vos adversaires comme Éric Zemmour, mai 68 a gagné depuis longtemps, je le cite, les rebelles sont devenus le pouvoir, un pouvoir qui se prétend toujours rebelle.
Mais alors là je suis désolé, par exemple quand
ne frappez pas du poing sur la table, laissez Natacha vous répondre.
Quel 68ard a exercé le pouvoir? Aucun. Ça, nulle part, sauf peut-être Václav Havel, si on considère le printemps de Prague comme 68ard. Aucun, nulle part. Il n'y a pas un dirigeant du CAC 40 qui est 68ard, et il n'y a pas un président français qui fut 68ard.
Un grand sourire sur le visage
de Natacha Polony. Je n'ai jamais compris pourquoi il fallait penser mai 68, ou d'ailleurs tout autre moment de l'histoire, en bloc. C'est-à-dire expliquer que ce serait forcément formidable ou forcément une catastrophe. Pardon, mais je demande un droit d'inventaire.
Bien sûr.
C'est-à-dire que je pense que je comprends très bien pourquoi les Français sont attachés à ce moment de l'histoire, parce qu'il y avait une chape de plomb à faire sauter. Il y avait des choses absolument ahurissantes. Un souvenir personnel, mon père me racontait toujours, pour m'expliquer ce que c'était que mai 68, qu'en 1967, il avait mis la révolution dans son internat en arrivant au réfectoire avec une cravate à fleurs. Ce qui était un scandale absolu à l'époque. Et donc ça avait fait une bronca. Bon, c'est vous dire comme la société était bêtement coincée. Donc bien sûr qu'il y a des avancées. Bien sûr que, heureusement, je me réjouis, moi, en tant que femme, de vivre aujourd'hui et pas dans cette société d'avant 68. Donc il y a énormément de choses qui étaient nécessaires.
Mais dans votre inventaire, vous regrettez par exemple la désagrégation des sociétés occidentales, la remise en cause des valeurs traditionnelles.
Je pense que mai 68 est un moment, c'est-à-dire une espèce de catalyseur. Mais les phénomènes qui ont été engendrés et renforcés par mai 68 étaient déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est le croisement de la société de consommation et de la poursuite d'une conquête individualiste, mais qui a sans doute été beaucoup trop loin et qui, en rencontrant cette société consumériste, a abouti à la désagrégation d'institutions qui étaient pourtant nécessaires, à l'incapacité aujourd'hui de penser une communauté en même temps que des individus. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à tout cela sans pour autant rejeter mai 68 totalement.
Mais arrêtons
aussi les fantasmes.
Mais bien sûr qu'on peut tout discuter, mais vous voyez bien que depuis 40 ans, on nous explique que c'est la mère de toutes les catastrophes et qu'on avait intégré l'idée que c'était vrai. Or, c'est faux et en plus, c'est rejeté par les Français. Mais même sur ces questions-là de l'individualisme, 68, c'est une pause, y compris vis-à-vis du marché et du libéralisme, avec un questionnement du fonctionnement des sociétés capitalistes.
Alors ça, non, quand même.
Eh bien si, il y a eu ce moment-là. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que 68 n'a pas eu de suite politique.
Pardon, il y a eu un moment d'entourloupe sur ce plan-là.
Mais non, il n'y a pas eu d'entourloupe sur ce plan-là. Simplement, ce qui s'est passé, comme il n'y a pas eu de suite politique, eh bien ensuite, on a eu la grande dérégulation, on a eu l'ultralibéralisme, on a eu Reagan, on a eu Thatcher, qui n'étaient pas des 68ards, je tiens à le préciser, qui étaient pour de l'ordo-conservatisme libéral.
Y a-t-il un hasard à ce que Danny Cohn-Bendit soit aujourd'hui un macroniste profondément convaincu? Je pense que ça nous raconte aussi, et il n'est pas le seul, ça nous raconte aussi une certaine évolution, c'est-à-dire que le rejet de la société capitaliste n'était peut-être pas aussi farouche qu'on a bien voulu le croire. Mais oui, il faudrait des heures pour discuter de tout ça.
Et on n'a malheureusement pas le temps, mais je vais faire un sondage sauvage et totalement arbitraire dans ce studio. Vous êtes l'échantillon représentatif, Natacha et Raphaël. Jouissons sans entrave ou soyez réaliste, demandez l'impossible. Quel est le slogan que vous préférez, Natacha?
Soyez réaliste. Bon. Je m'appelle Natacha maintenant, mais c'est très 68 tard. J'ai pris, on a interverti les identités.
Je trouve les deux absolument extraordinaires. Ils fonctionnent, ils sont beaux. Hélas, ils disent des choses qui sont le contraire de ce qu'ils prétendent dire. Et c'est ça qui me pose problème.
Soyez réaliste, demandez l'impossible, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. C'est pour ça que c'est pas simplement un moment à commémorer, c'est un esprit à retrouver. On veut aujourd'hui nous expliquer qu'être réaliste, c'est juste continuer quelque chose qui ne fonctionne pas. Et bien justement, alors demandons ce qui est a priori impossible, parce que c'est le seul rapport réaliste à l'existence.
La jouissance sans entrave aboutit à une loi de la jungle qui me semble assez problématique et dont nous voyons totalement les résultats.
Donc 100% de notre échantillon représentatif a choisi « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous préférez jouir sans entrave ou si vous suivez Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Il est 13h31, le grand face-à-face de France Inter continue maintenant avec le débat.